Cette guerre n'est pas une guerre ordinaire. C'est la guerre du peuple russe tout entier.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Quelle est la vraie histoire de la grande guerre patriotique de Staline? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Nicolas Werth. Aujourd'hui, quatrième épisode, la prise de Berlin et la victoire finale de l'Union soviétique. La capitulation de Paulus à Stalingrad le 2 février 1943 marque un tournant capital, mais pas la fin de la guerre. Décidé à ne rien lâcher, le haut commandement allemand reprend l'offensive à Koursk. Mais à partir de juillet 1943, la contre-attaque soviétique met fin à toute nouvelle initiative allemande. D'autant qu'après le débarquement allié en Sicile, la victoire semble désormais acquise pour les soviétiques et leurs alliés occidentaux, qui ensemble s'engagent à poursuivre la guerre jusqu'à la capitulation totale des adversaires. En janvier 1944, les soviétiques lancent une grande offensive qui les amène enfin à libérer Leningrad après 872 jours de siège. En avril-mai, toute l'Ukraine et la Crimée sont libérées. Durant l'été, l'armée rouge atteint la Pologne, puis la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie. En octobre 1944, les soviétiques ont pris le contrôle d'une grande partie de l'Europe centrale et orientale, ces pays qui seront bientôt derrière le rideau de fer. En janvier 1945, les soviétiques lancent leur offensive finale sur l'Allemagne. Le 12 avril, les 2 millions d'hommes du commandant Joukov arrivent devant Berlin, défendus par 1 million de soldats allemands, dont certains, des nazis fanatiques, se battront jusqu'à la dernière cartouche. Très dure, la bataille de Berlin s'achève le 2 mai 1945. Ce jour-là, le drapeau rouge flotte sur le Reichstag. Le 8 mai, la capitulation de l'Allemagne est signée à Berlin.
Comme c'est silencieux l'abdication d'un peuple. Ils avaient décidé la guerre totale, la victoire totale. Ils ont eu la défaite totale et la capitulation totale.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Dès qu'elles ont pénétré sur le sol allemand, les troupes soviétiques se sont livrées à des atrocités, pillages, viols et massacres. Les crimes habituels de la soldatesque, pourrait-on dire. D'autant qu'on peut y voir la réponse à la barbarie des Allemands en 1941. Un soldat écrit dans une lettre à ses parents « On a le cœur en fête quand on traverse une ville allemande en flammes. Nous nous vengeons de tout et notre vengeance est juste. » Le soldat Nikolaï Nikouline, dans ses mémoires, évoque son arrivée dans Berlin, qui n'est plus qu'un tas de ruines. Par groupe, dit-il, les soldats partaient errer dans la ville en quête de butin, de vodka et d'une Frau. L'uniforme couvert de médailles et la cervelle dérangée par la guerre, ils considéraient que tout leur était permis. Le crime le plus systématique est le viol. Une Allemande raconte. Des soldats de l'armée rouge sont entrés dans la cave où nous nous cachions, ont pointé leurs armes sur moi et m'ont ordonné de sortir dans la cour. Là, 12 soldats m'ont violé tour à tour. Et l'état-major soviétique laisse faire. Soldat de l'armée rouge, tu es maintenant sur le sol allemand, l'heure de la revanche a sonné, lit-on sur les affiches soviétiques. Staline lui-même n'y voit rien à redire. Comment ne pas comprendre, dit-il, qu'un soldat puisse rechercher le plaisir auprès d'une femme et se payer du bon temps lorsqu'il a marché des milliers de kilomètres à travers le feu, le sang et la mort. Fin de citation. Nicolas Werth, a-t-on une idée du nombre d'Allemandes qui ont été violées par les troupes d'occupation soviétiques en 1945 ?
Il n'y a évidemment aucun chiffre, mais le phénomène est massif. Il a été, on peut dire, encouragé par une propagande de haine dont s'étaient rendus maîtres certains écrivains célèbres comme Ehrenburg, par exemple, qui parlait de l'Allemagne comme d'une sorcière. Évidemment, il faut mettre ces viols de masse, ces crimes de guerre, aussi au regard des atrocités sans commune mesure, encore une fois, avec celles qui ont été commises à l'ouest, à perpétrer pendant des années par l'envahisseur. Je donnerai un seul exemple. Chez nous, en France, on commémore le village brûlé d'Oradour-sur-Glane. Dans la seule Biélorussie, il y a plus de 3500 villages qui ont été brûlés avec des civils. Voilà, on est dans un climat de violence extrême et de vengeance auquel, évidemment, les autorités soviétiques ont laissé un moment libre cours.
Et les rares voix qui osent en parler côté soviétique sont rapidement étouffées. L'exemple de Lev Kopelev, futur écrivain dissident, capitaine en 1945. Il dénonce à l'époque publiquement ces viols massifs des Allemandes, ce qui lui vaudra d'être arrêté et condamné à 10 ans de goulag pour, je cite, « propagation d'humanisme bourgeois et pitié envers l'ennemi ». Il y a les pillages aussi, hein, un exemple célèbre, la photo qui montre le soldat de l'armée rouge qui plante le drapeau rouge en haut du Reichstag. Il porte deux montres, une sur chaque poignet. La photo sera d'ailleurs retouchée pour la presse. Les soldats soviétiques qui arrivent en Allemagne découvrent un pays vaincu, mais quand même très riche en comparaison de l'URSS.
Absolument, et donc les archives de la censure qui contrôlait les lettres envoyées par les soldats à leurs familles, montre l'incompréhension d'un grand nombre de soldats soviétiques qui ne se posent la question « Mais pourquoi donc l'Allemagne a-t-elle envahi l'Union soviétique ? Qu'espérait-il chez nous, nous qui sommes un pays de pauvres et eux qui sont un pays de riches ?» Et ces millions de soldats de l'armée rouge qui, pour la première fois de leur vie, quittent l'URSS et découvrent un monde nouveau. Évidemment, ça s'est traduit par un pillage à la fois individuel et généralisé, puisque c'était toute une politique en 1945 de s'approprier tout ce qu'on pouvait s'approprier dans l'Allemagne occupée, mais aussi, au fond, ce choc pour l'après-guerre, dans quel monde on va vivre après, justement, la victoire.
Concernant le nombre de victimes militaires côté soviétique, on parle d'au moins 20 millions de morts militaires et civils. Comment expliquer un tel chiffre ?
Pendant très longtemps, le chiffre officiel côté soviétique était de 7 millions, puis il est passé à 20 millions à l'époque khrouchtchevienne et plutôt 26-27 millions à l'époque de Gorbatchev. Cette hécatombe, en gros, on compte 10 millions de morts militaires et plutôt 16 millions de morts civiles, s'explique par l'extraordinaire violence de l'occupant nazi, par également des tactiques de combat côté soviétique où on ne comptait pas les nombres de, disons, les sacrifices humains. C'est une guerre extraordinairement coûteuse en hommes. Ces offensives, par exemple, rien que dans la bataille de Berlin, la dernière bataille, l'armée rouge a perdu près de 800 000 hommes en quelques semaines. C'est aussi cette masse d'infanterie sacrifiée sur le champ de bataille qui caractérise au fond encore aujourd'hui, hélas, l'offensive de la Russie en Ukraine, c'est-à-dire qu'on ne compte pas la chair à canon qui est utilisée pour arriver à ses fins.
Comment le peuple soviétique va sortir de la guerre ? Est-ce qu'il espère une libéralisation du régime ?
Le peuple soviétique est un peuple meurtri avec ses pertes extraordinaires, un nombre de incroyable aussi de blessés, d'invalides de guerre, 25 millions de sans-abri, et une espérance aussi d'un changement. Pour les anciens combattants, le premier des changements importants aurait été qu'on dissolve enfin les kolkhozes, qu'on permette de revenir à ce qui se passait avant la collectivisation et plus de liberté, tous espoirs qui ont été très rapidement arrêtés avec un retour à la pureté idéologique après une petite libéralisation pendant la guerre.
Merci Nicolas Werth. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la Grande Guerre patriotique a été instrumentalisée par le pouvoir soviétique, puis par Vladimir Poutine.